Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdou Sall et je vous accueille à l'épisode numéro 124. Cette semaine, nous allons avoir un petit débat sur qui va obtenir le siège, c'est Haas pour 2023. Avant d'accueillir mes deux collaborateurs habituels au bulletin GP, je dois amener des précisions concernant l'émission d'après-course du Grand Prix des États-Unis parce que après que j'ai mis fin à l'enregistrement, ça a brassé. Lance Stroll a reçu une pénalité de 3 places sur la grille pour le Grand Prix de Mexico City. Alex Albon a reçu une pénalité de 5 secondes pour avoir coupé un virage et obtenu un avantage. Et le plus gros, Fernando Alonso a reçu une pénalité de 30 secondes, donc 10 plus un drive-thru qui est à peu près 20 secondes. Donc, il a perdu sa 7e place et a chuté au 15e rang. Tout ça à la suite d'un protêt déposé par Haas. D'ailleurs, Alpine a porté réclamation. Donc, d'ici la fin de semaine, on devrait avoir les résultats, à savoir si il y a bel et bien matière à redonner la 7e position à Fernando Alonso, obtenue lors du Grand Prix des États-Unis. Mais tout ça, c'est à suivre dans ce merveilleux monde qu'est la Formule 1. Et avant de commencer encore le débat, j'ai un édito, mais cette fois-ci beaucoup plus joyeux. Dimanche 26 octobre 1997, 9h41 à peu près. Une date que plusieurs personnes se souviennent comme si c'était hier. Certains s'étaient levés tôt pour aller au complexe des jardins, mais probablement pas pour probablement pour faire des achats, je ne sais pas. D'autres pour un petit déjeuner des champions. Pensez pas croche les amis quand même là. Il y a aussi ceux qui se sont tapés une rediffusion sur Radio-Canada en après-midi. Évidemment, je parle du moment où un Québécois de 26 ans devenait une vedette internationale, s'il ne l'était pas déjà. En effet, Jacques Villeneuve franchissait la ligne d'arrivée du Grand Prix d'Europe disputé sur le circuit de Jerez en finissant troisième derrière les McLaren de Mika Häkkinen et de David Coulthard. Häkkinen remportait son premier Grand Prix en carrière près de 2 ans après un accident presque fatal à Adelaide en Australie. Au Québec, cela importait peu, car Jacques Villeneuve devint champion du monde de Formule 1. Le tout après avoir obtenu une pole position historique la veille, en étant le premier à inscrire un chrono de 1:25.072. Michael Schumacher, son rival direct au titre, avait égalé la marque. OK, il y a une Sarah Alfredson aussi, mais il n'est pas très, très important dans l'histoire. Il est un peu, mais bon, je digresse. Qui se souvient encore du moment où, au 48e tour, Pierre Houde époumonne la phrase suivante? De Michael Schumacher qui abandonne sur le coup après ce contact volontaire, du stress que cela a occasionné de savoir si la Williams de Villeneuve allait tenir jusqu'au bout. Cette scène historique, personnellement, non seulement le contact, mais aussi la ligne d'arrivée, l'arrivée de Villeneuve en troisième position, a cimenté le respect que j'ai envers Jacques Villeneuve. 25 ans plus tard, ça n'a pas changé, malgré les excursions hors-piste du Québécois. On n'entrera pas dans le sujet de grâce, ce n'est pas la place ni le moment. J'avais 5 ans quand ce moment historique s'est produit. Les 3 seules courses que j'avais en mémoire à cet âge-là furent Canada 96, Canada 97 et Europe 97. Pour le reste, ça va, là, j'ai encore de bonnes mémoires. Mais ce sont ces 3 Grands Prix qui m'ont permis d'avoir, encore jusqu'à aujourd'hui, mon pilote préféré, Jacques Villeneuve. Bon, d'accord, il n'est plus en Formule 1, mais j'adore tous les pilotes, sauf Nikita Mazepin, évidemment, et Yuji Ide. Mais Jacques Villeneuve a été celui, avec mes parents et Pierre Houde, évidemment, et Philippe Crépeau, Christian Tortora, Bertrand Houde, qui ont marqué mon imaginaire de petit gars de 5 ans qui regardait les Grands Prix, qui essayait de se lever le matin à 7h30, 8h pour regarder les courses avec mes parents et juste pour voir si Jacques allait remporter un Grand Prix. Même si en 98, la Williams était moyenne, surtout avec le départ de Renault. En 99, aller chez BAR. Le seul moment de joie que j'ai eu, c'est en 2001, quand Mika Häkkinen, ce même pilote qui a remporté ce premier Grand Prix en carrière, a vu son moteur exploser lors du Grand Prix d'Espagne de 2001. Cette casse moteur de la McLaren m'a permis de revoir Jacques Villeneuve parmi le top 3. Quoique j'aurais pu le voir aussi dans le top 3 au Grand Prix du Canada 2000, alors que j'étais pour la première fois à l'extérieur au ciné, à l'extérieur du Canada. Mais malheureusement, il a yité un Schumacher. Pas le bon Michael, pas le bon Schumacher, par contre. Mais n'empêche, j'aurais voulu voir un Jacques Villeneuve remporter un Grand Prix, au moins, après mes 5 ans, mais ce ne fut pas le cas. J'ai évidemment aucun souvenir d'un Jacques en direct remporter les 500 000 d'Indianapolis et le championnat d'IndyCar en 95. J'étais un petit cul de 3 ans. J'ai vu Jacques terminer deuxième aux 24 heures du Mans en 2008, si je ne me trompe pas. Mais c'est tout ce que j'ai pu voir. Ah oui, puis aussi les nombreuses participations de Jacques à la Nationwide, au circuit Gilles Villeneuve, sans la moindre victoire. Mais n'empêche, 26 octobre 1997 restera à tout jamais, en tant que fan de Formule 1, une date historique du haut de mes 30 ans. Donc, Jacques, je ne sais pas si tu nous écoutes, je ne sais pas si tu écoutes le balado, et j'espère que oui, mais on te souhaite un 25e anniversaire de ton seul et unique titre en Formule 1. Et voilà, c'était l'éditorial pour souligner les 25 ans du sacre de Jacques Villeneuve, champion du monde 97. Et sur ce, j'accueille tout de suite Marc-André Fortin et Anna Maria Mercado Lopez. Bonjour, bonjour.
Salut Abdou.
Comment allez-vous?
En pleine forme, de ton côté.
Oui, ça va très bien, merci. Puis Marc-André, je te déteste encore plus parce que... parce que évidemment.
Oui, mais...
On s'était quitté en disant que les Steelers allaient battre les Dolphins. Ce fut l'inverse, mais bon.
Ouais, mais écoute, ça n'a pas été de tout repos non plus. Là. Ça a été très compliqué.
Jusqu'à la dernière seconde.
Ouais.
Alors, trêve de Hard Rock Stadium, on va aller, on va rester aux États-Unis parce qu'on va parler de Haas. Évidemment, il reste un siège et demi, le demi étant Logan Sargeant qui a, disons, une moitié de derrière sur le dans le volant en attendant d'avoir sa super licence. Mais chez Haas, qui a un nouveau commanditaire, en MoneyGram, qui sera le commanditaire principal de l'écurie en 2023. On sait que Kevin Magnussen va être un des pilotes de l'écurie américaine en 2023, mais on ne sait pas qui va épauler le Danois. Est-ce que ce sera Mick Schumacher, présentement avec l'écurie depuis 2021, ou est-ce que ce sera quelqu'un d'autre? Les nombreuses rumeurs font état d'un possible retour à temps plein d'un autre Allemand du nom de Nico Hülkenberg. Et il y a aussi deux noms possibles qui ressortent, mais on en reparlera après. Mais le débat d'aujourd'hui va se concentrer sur un débat des Allemands, à savoir lequel aura le volant. Alors, on va commencer d'abord par Mick Schumacher. Évidemment, c'est une deuxième année pour le pilote allemand qui a quand même marqué des points cette saison. mais qui a un genre d'ultimatum, en fait, qui a été lancé par autant Gunther Steiner que Jane Haas, à savoir, il doit marquer des points jusqu'à la fin, d'ici la fin de la saison. Alors, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que Mick Schumacher, on va se concentrer sur le fils de Michael d'abord, avec ses 12 points, est en pole position pour garder son volant la saison prochaine? Et je vais commencer par Anna Maria, vu que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu.
Oui, Adou. Mais oui, je pense que oui, lui est en pole pour garder la place chez Haas. Je pense que, mais je même pense que lui va rester, même si Haas y met la pression, il y a tant de résultats, mais je pense que lui va rester parce que sinon, qui d'autre? Je ne pense pas que Nico Hülkenberg sera de retour pour être à temps plein sur la Formule 1. Et aussi parce que peu importe quel est le résultat de Mick cette année, lui est en train d'apprendre. Et aussi, c'est un gros morceau de la Formule 1. Même si on dit oui, parce que c'est le fils de Michael, ben, il faut prendre en compte que ça le donne beaucoup de visibilité à l'équipe. Et c'est quelque chose. Et je pense que si lui n'est pas là, Haas, il va pas avoir la même attention. Je pense que même si ses performances restaient un peu à désirer, il faut lui donner la chance parce qu'on a vu Mick sur les autres catégories et il est toujours besoin de temps pour s'adapter, mais après, quand il faut libérer, lui est capable de libérer, que je pense qu'il mérite encore rester chez ça, si c'est une bonne chose. Pour la Formule 1, pour Mick et aussi pour Haas.
Marc-André?
J'appréhendais cette question parce que je suis tellement mitigé. Honnêtement, quand tu regardes les performances de Mick Schumacher, ça a tellement été des hauts et des bas. Puis moi, j'ai toujours eu de la difficulté à percevoir son potentiel. Puis j'ai toujours eu de la difficulté à le voir percer la Formule 1 de manière... intangible, puis sans aucun questionnement, parce que il y a certaines lacunes dans sa manière de piloter, dans sa manière d'être en piste, qui me dérange énormément. On dirait qu'il manque de chien des fois, il manque cette petite flamme qui fait en sorte que moi, ça vient me toucher en tant que fan. Donc, est-ce que Haas vont le garder? Je pense que ça va être un énorme débat à l'interne. En même temps, je me dis, tu sais, tant qu'à avoir Hülkenberg, qui est, désolé Hülkenberg, là, mais un peu passé date, là, comme, maintenant, t'as essayé d'entrer en Formule 1 une, deux, trois, quatre fois, puis ça n'a pas fonctionné. Il y a peut-être des signes de faiblesse là, de son côté. Puis tant qu'à ça, je pense que j'aime peut-être mieux qu'un jeune soit dans la voiture, un jeune qui est encore tout jeune, qui peut encore s'améliorer, trouver des pistes de solutions. D'un autre côté, Hülkenberg est un... Bon, pas le meilleur pour améliorer une voiture, on s'entend, mais quand même, c'est un pilote qui a quand même un petit œil mécanique, qui peut peut-être amener son expérience, qui peut peut-être amener Haas à un autre niveau, mais je sais pas à quel point ça c'est le gars qu'il faut. J'essaie de regarder un peu les jeunes outre. En F2, présentement, il y a beaucoup de jeunes pilotes, mais qui ne sont pas nécessairement prêts à faire le saut en Formule 1. Donc, Hülkenberg m'apparaît quand même quelqu'un qui pourrait venir faire le pont entre des pilotes qui sont sur le bord de pouvoir entrer en Formule 1.
Mais en même temps, il faut se le dire, la saison de Mick, comme je le disais à quelques reprises, quand on évoquait le cas de Mick, c'est une saison en deux temps. Il y a eu évidemment la première partie où ça a été un peu à l'image de 2021, rough. Mais la deuxième, à partir du Grand Prix du Canada, il s'est rapproché considérablement de Kevin Magnussen inscrivant même des points. Bon, à Montréal, il aurait pu en marquer, mais c'est un problème de la voiture qui a causé son abandon. Mais je trouve que Mick s'est amélioré. Puis même au Grand Prix des États-Unis, à un moment donné, il était dans une position où il pouvait se battre pour des points. Mais malheureusement, il y a eu des débris et Nicolas Latifi happened. Donc, moi, je me dis, je pense que si on peut, si Haas peut être, parce que je trouve que je comprends Haas de vouloir donner un ultimatum à Mick pour garder son volant et lui faire permettre d'atteindre un autre niveau. Mais il faut se le dire, la voiture a régressé depuis le début de la saison. Et c'est pas quelque chose de nouveau chez Haas. Ça, on l'a vu. Je pense que c'est un peu l'histoire de depuis qu'ils sont en Formule 1. Un très bon début de saison. Mais ensuite, ça fait pouette. Bien qu'on blâme les pilotes pour des erreurs bêtes, la voiture ne suit pas. Et c'est ce qu'on voit là maintenant avec Mick Schumacher qui, certes, on va se le dire, à moins d'un déclic important, il ne sera pas comme son père. On va se le dire. Mais s'il est capable de tirer son épingle du jeu, ben moi je crois en Haas pour lui donner le plus de temps possible, surtout avec un MoneyGram qui va apporter de l'argent pour mieux développer la voiture, parce qu'ils l'ont dit, ils vont pouvoir être à la limite du cap salarial prévu pour 2023. Donc, plus de ressources, ça veut dire plus de développement. Et ça va permettre, par exemple, à Mick, si jamais il devait rester, de mieux s'épanouir, comme il l'a fait dans les catégories juniors. Parce que je pense que c'est dans la deuxième moitié de saison qu'il est beaucoup plus constant. Et on l'a vu à plusieurs reprises cette année où il a été au-delà de Kevin Magnussen. Donc, moi, je pense que cette deuxième partie, à partir de Montréal, il y a des arguments pour garder Mick. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, comme je disais, mais... C'est vrai que tu viens de dire, c'est sûr que Mick il a fait des erreurs, il n'a pas commencé trop bien l'année, mais je pense que lui mérite de rester parce que de toute façon, même si Haas met la pression, il n'y a pas beaucoup à donner aussi à la place. La voiture n'est pas beaucoup avancée, c'est pas développé comme les autres, fait que je dis, ils sont pas non plus en position de faire pression. C'est pas comme si tu as un Red Bull et tu peux dire je te prends pas. C'est ça mon problème. Mais oui, lui, il peut-être fait des erreurs, mais il est pas dans la meilleure voiture non plus.
Exact. Mais je dis bien mais, puis je vais passer la parole à Marc-André. Il y a cet autre côté qui fait en sorte que Haas est dubitatif à conserver Mick, ce sont ces accidents qui ont coûté cher.
4 millions, je crois.
Exact. Donc, ces accidents, ben, on va dire, l'année dernière à Monaco, ça a coûté presque un demi-million. Cette année, ces deux gros accidents, celui à Jeddah en qualification, où d'ailleurs, il n'a même pas participé à la course, et son accident à Monaco en même temps où Kevin Magnussen a dû abandonner. Schumacher a eu ce violent accident à la piscine. Alors, ça aussi, ça laisse Haas dubitatif à savoir pourquoi on garderait un pilote qui, si jamais... j'ai oublié aussi son accident lors des essais numéro 1 du Grand Prix du Japon aussi. Donc, je peux comprendre Haas d'être assez dubitatif. Qu'en penses-tu?
Oui, parce que ça reste que les accidents sont de plus en plus chers payés par les écuries en raison justement du plafond salarial. Puis Je discutais l'autre fois avec un ami qui est quand même un fan de Schumacher. Puis, tu sais, il me disait, ouais, mais regarde Max Verstappen, dans le temps, il faisait des accidents, puis il coûtait quand même cher à Red Bull. J'ai dit, oui, mais il avait un talent pur à frotter. Je ne sais pas à quel point Schumacher peut atteindre ce point-là ou ce point de premier pilote qui vont faire oublier ces erreurs qui vaut 4 millions présentement. Donc, enfin, la question, c'est pendant combien de temps il va y avoir des petites erreurs d'inattention comme ça ou de simplement de maturité. C'est tous des questions que Haas doit se poser en ce moment. En même temps, tu sais, là, on jase pour jaser parce que c'est impossible, mais il y a un pilote que j'aimerais beaucoup mieux voir dans la voiture en ce moment, c'est Drugovic. Malheureusement, il est signé comme troisième pilote avec Aston Martin. Puis je ne sais pas à quel point Haas est intéressé parce que sinon, j'imagine qu'il serait allé le chercher. Il était complètement libre. Mais tu sais, s'il me donne le choix entre Drugovic puis Schumacher, j'aime bien mieux tester le petit nouveau. C'est ça qui est malheureux un petit peu en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux qui peuvent arriver en Formule 1. Fait qu'il faut aller avec le vieux. Puis le vieux, ben, si c'est Schumacher, ben, regarde, on peut lui laisser une dernière chance. On peut le voir travailler. Haas n'est pas obligé non plus de. Je pense qu'il y a un contrat jusqu'en 2023. Est-ce que j'ai eu tort de dire ça?
Qui ça? Tu parles de.
Schumacher.
Son contrat
termine cette année.
Cette année, ouais.
Ouais, c'est ça. Donc, tu n'es pas obligé de le signer non plus pour 6 ans. Là, tu peux y aller doucement, puis voir comment ça avance. Mais c'est ça, je suis très mitigé. Tu sais, je reviens à mon point principal. Soit tu y vas avec un Hülkenberg qui... Je ne sais pas à quel point Hülkenberg peut amener quelque chose à la Formule 1 encore aujourd'hui. C'est un pilote qui a toujours perdu son sang-froid au moment important. Puis là, on va se dire que les moments importants pour lui, ça, avec une A, ça va être de rentrer dans les points.
Ouais. Donc, justement, on reparlera de Hülkenberg un peu plus tard. Mais pour finir avec Mick, Anna Maria, il a déjà un... Schumacher a déjà un allié de taille. Et c'est nul autre que son coéquipier, Kevin Magnussen, qui a dit en entrevue lors du Grand Prix des États-Unis que... Et il a remarqué que Mick s'améliore vraiment. Il a été très difficile à battre du point de vue de Magnussen et qui mérite vraiment de conserver son siège pour 2023. Cependant, il n'a pas de droit de parole pour décider qui sera son coéquipier. Donc, si ton propre coéquipier dit que tu t'es amélioré, moi, je pense que Haas devrait écouter son pilote numéro un.
Oui, il y a aussi la question que dans son première session F1, son coéquipier c'était plus que lui.
Ouais.
Et qu'il n'y avait aucune référence.
Mm-hmm.
Et qu'il n'y avait pas avec qui apprendre davantage. Comme cette année, il y a un bon pilote, Magnussen, même si c'est des fois il était pas si bien. C'est un bon pilote, il a démontré qu'il est capable de conduire la voiture. Et maintenant, lui, il y a quelqu'un avec qui lui apprend.
Ouais.
À apprendre cette expérience qu'il n'y avait pas l'année dernière. Et par rapport à Hülkenberg, il faut pas se cacher les choses. Le potentiel de marketing entre Mick Schumacher et Hülkenberg, même si Schumacher fait ses crasses, c'est quand même un avantage.
C'est ça.
Il ne faut pas les désestimer parce que sinon, comme dit Marc-André, Drugovic, il aurait été appelé. Il y a quelques pilotes qui ont la superlicence, ils ne sont pas appelés parce qu'il manque sa petite chose qui doit venir avec aussi.
Voilà. Donc, moi, je pense que Mick a certains avantages pour garder son volant. Mais, avant de passer à Nico Hülkenberg, si jamais, dans une circonstance exceptionnelle, Logan Sargeant ne parvenait pas à obtenir les points de super licence parce qu'évidemment, il va faire des essais à Mexico City et à Abu Dhabi. Donc, ça lui donnerait, ça devrait lui donner des points de la super licence. Mais il lui reste les deux courses à Abu Dhabi en Formule 2. Si par quelconque malchance, Sargeant ne parvenait pas à terminer dans le classement nécessaire pour obtenir les points restants de la super licence, est-ce que Mick Schumacher devient un candidat numéro un pour être le coéquipier d'Alex Albon en 2023?
Pourquoi pas?
Pourquoi pas?
William ne cracherait pas dessus.
Ouais. Marc-André?
Moi, je pense qu'il ne cracherait pas dessus, à moins qu'il trouve ça important d'aller avec Jack Aitken ou Jack Doohan, qui sont deux pilotes dans leur académie, qui sont deux pilotes qui se sont occupés dans les dernières années. D'ailleurs, les deux Jack Aitken a fait des tests. Doohan, je doute.
Mais Doohan appartient à Alpine, mais je pense que à moins d'une situation urgente, ce ne serait pas... Je pense pas c'est que
ça.
Alpine.
Ah oui, c'est ça, Alpine. Oui, c'est
Alpine.
Ça.
Mais le prêté à Williams.
Oui, la seule chose avec Williams, c'est que où Hyundai a son pilote Albon, son pilote qui va performer, mais que les pilotes qui va remplacer Latifi, il faut qu'il y ait un peu de Latifi quand même, parce que le côté marketing est important pour Williams aussi. Hein.
Mais Schumacher a quand même one and one comme commanditaire aussi, donc
oui,
c'est très payant.
Ça c'est quand même payant. Donc ça au moins c'est quelque chose qui pourrait aussi donner un avantage à Schumacher pour justement un volant chez Williams en cas de de point de super licence manquant à Logan Sargeant qui on vous rappelle a un volant et demi chez Williams, un demi-volant chez Williams pour 2023. Bon, maintenant, allons voir de l'autre côté. Si on s'imagine que Mick Schumacher ne reviendra pas chez Haas en 2023, Nico Hülkenberg est pressenti pour être son remplaçant parce que je pense Haas et Gunther Steiner ont explicitement dit aussi qu'il chercherait aussi un pilote d'expérience, surtout, bon, rappel, avec l'argent de MoneyGram, et Hülkenberg serait un candidat potentiel pour remplacer le jeune Schumacher chez Haas. Hülkenberg, on l'a vu cette année, il a remplacé Sébastien Vettel pour les deux premiers Grands Prix de la saison, avec une 12e place comme meilleur résultat. Il a été aussi le super sub pour remplacer Sergio Perez au Grand Prix de Grande-Bretagne et du 70e anniversaire en 2020, ainsi que de Lance Stroll au Grand Prix de l'Eifel à Nürburgring. Alors, et évidemment, Hülkenberg a quand même eu une bonne carrière en Formule 1 avec une 4e place comme meilleur résultat et une pole position au Grand Prix du Brésil en 2010 à son année recrue chez Williams. Mais la question se pose, est-ce que Nico Hülkenberg fit exactement dans le moule que Haas cherche comme pilote d'expérience? Je vais commencer avec Marc-André, tiens.
Moi, je trouve qu'il fitterait un peu. C'est certain que j'ai encore quelques réticences. Ça fait longtemps qu'il n'est plus dans le game, même si il a fait quelques courses durant les deux dernières années là, en raison de la COVID et d'une absence d'un pilote. Donc, mais en même temps, j'ai mon petit côté le petit côté de moi qui me dit pourquoi pas. Et essayons-le pour une dernière fois. Amenons-le en Formule 1. Voyons voir ce qu'il peut faire. Mais c'est très difficile pour Haas parce que je pense tu vas vouloir impressionner MoneyGram. Tu vas vouloir impressionner ton nouveau commanditaire. Fait que d'un côté, il faudrait pas que tu te trompes dans ton deuxième pilote. Fait que ça amène tout ce questionnement qui est très difficile chez Haas parce que d'autant plus qu'à l'époque, Haas se battait pour que Jim Haas continue à mettre de l'argent dans la Formule 1. Mais là, de l'autre côté, aujourd'hui, ils vont se battre pour MoneyGram et pour Jinhaz. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir la décision qu'ils vont prendre. Mais moi, je verrais très, très bien Huckelberg chez Haas. J'aurais aucun problème avec ça. Mais c'est vraiment une solution temporaire. On parle pas de, ouais. de 2-3 ans. Là. On parle d'un an, maximum 2, si t'es pas capable de trouver un jeune pilote pour... Parce qu'après tout, Haas, c'est un peu à ça qui sert présentement. On veut former des pilotes. Parce que Magnussen est là comme numéro un pour les prochaines années. Donc, ton but, c'est justement que quand Magnussen va cette année ou quand ça ne fera pas l'affaire, tu vas vouloir un deuxième pilote qui va pouvoir devenir numéro un. Puis ça, ça se trouve pas du jour au lendemain non plus. Mm-hmm. Donc, c'est certain que Hülkenberg pourrait t'amener une stabilité pour la première année. Peut-être pour la deuxième, mais c'est vraiment pas un projet à long terme. Ça, c'est sûr.
Ouais, parce qu'on s'entend, Magnussen a quand même 30 ans.
C'est ça. Il vieillit. Là.
Oh. Hey, attention à ce que tu dis. On a le même âge. On a juste 3 jours de différence. Mais oui, mais effectivement, Magnussen a quand même un contrat de plusieurs années. Donc, c'est quoi? C'est, je pense, on va dire 2-3 ans. Minimum.
Ouais, à peu près.
Un contrat multi-an, non? Qui se révise à chaque année quand même.
Mais cette fois-ci, c'est un contrat qui est assuré. Donc, lui, il est là pour rester Magnussen. Donc, ça, c'est, et en plus d'avoir Hülkenberg, c'est quand même de l'expérience. Et comme tu l'as dit, Marc-André, moi aussi, j'ai mes réticences parce que je l'aime bien, Nicole Hülkenberg, mais, moi, je trouve qu'il a été beaucoup trop overhypé. Évidemment, avec ces histoires.
Complètement.
Avec ces histoires de podium qu'il n'a jamais eu, mais qui a, reprendre l'expression des Britanniques, he bottled it. Il a carrément raté ses chances où il pouvait inscrire un podium. Il a craqué sous la pression. Mais, ceci étant dit, pour une équipe de milieu de plateau que Haas, comme Haas veut avoir, Nicole Hülkenberg fait carrément dans le moule. Il est constant. Il est capable de sortir de grosses performances avec de voitures sous-performantes, comme ce fut le cas avec Sauber en fin de saison 2013. Aussi, il n'était pas mauvais contre Sergio Perez, Carlos Sainz aussi, même Daniel Ricciardo en 2019 aussi. Donc, Nicole Hülkenberg, bien que je le trouve overhypé par les fans, désolé. Je pense qu'il fitterait dans le moule.
Moi, je ne sais pas. Mais, qu'est-ce que je peux dire? Ma sensation avec Hülkenberg, c'est que son temps est déjà passé.
Ouais.
C'est ça, moi, j'ai la sensation de que non, c'est trop longtemps dehors. Son temps est déjà passé. Il fait autre chose déjà, il y a des ans. Un enfant, il est comme. Je ne le vois pas comment faire. Comment être pilote pendant une session. Fait que, ben, honnêtement, si ça revenait à moi le choix de que Mick est pas là, il faut choisir un autre pilote. Ben, pourquoi pas aller chercher Ricciardo?
Ben, c'est ça.
Même Bandon, mais pas Hülkenberg. Mais parce que c'est quoi que j'ai en échange. Je veux un deuxième pilote. J'ai déjà celui qui performe bien, que c'est Magnussen. Mais moi, je vais chercher pas juste quelqu'un pour remplir la voiture. Je vais chercher un peu plus. Et je pense que, minimum, si me donne le choix, j'irai tout de suite chercher Ricciardo.
Puis, l'avantage avec...
c'est ça, mais je ne sais pas si lui va dire oui ou non, mais
l'avantage dans la candidature de Ricciardo aussi, c'est que c'est peut-être le pilote le plus américanisé de tout le plateau.
Oui, c'est ça. Ça, c'est...
Il y en a un qui est fin prêt là, à être américanisé, c'est très lui. Donc, ça, c'est peut-être un petit plus. Mais effectivement, moi, je me dis, tant qu'à aller chercher un gars qui n'est plus dans le game depuis quelques années, je ne sais pas à quel point Ricciardo est Tu sais, je pense qu'il a pas mal fait la croix sur l'an prochain. Ses dernières déclarations sont assez dans ce
mais lui, dans cette
direction-là. Mais je serais curieux. Écoute, moi, si j'étais elle, c'est certain que ce serait mon choix numéro un.
Ouais. Je suis pas trop certain parce que moi, je pense si Daniel Ricciardo... Moi, le problème que j'ai avec Daniel Ricciardo, c'est que il veut se concentrer 100% sur la Formule 1, ce qui est tout à fait valide. Mais s'il voulait se concentrer sur la Formule 1, ben, il y a un volant et demi qui est disponible. Donc, et même Gunther Steiner l'a dit, ben, si jamais il veut rester en Formule 1, appelle-moi, il a mon numéro. Il a probablement son numéro. Puis aussi, le paddock en Formule 1, il y a beau avoir des centaines et des centaines de personnes dans un paddock, mais ça reste quand même un petit monde. Ça murmure. Donc, moi, si j'étais Daniel Ricciardo, j'appellerais Gunther Steiner. Oui, et aussi pour compléter aussi, une des craintes que j'ai avec Daniel Ricciardo, c'est que pense à la Formule 1, mais il ne regarde pas les autres options. Je sais qu'il a dit non à l'IndyCar parce que il a peur des ovales, ce qui est tout à fait valide, mais big. OK, je ne vais pas dire big, là. J'ai l'impression d'être l'ami à Daniel Ricciardo, mais je voulais dire, Romain Grosjean a commencé sa... l'année dernière, Romain Grosjean a commencé en faisant un programme sur circuit routier. Tout comme Jimmy Johnson d'ailleurs. Puis ensuite, si j'aime. Donc, c'est quand même possible. Mais à faire une année sabbatique en Formule 1, c'est assez compliqué. Donc, si j'étais Daniel Ricciardo, je prendrais mon téléphone et j'appellerais Gunther ou bien Gene pour justement avoir cette chance. L'autre côté aussi, c'est que les performances récentes de Daniel ne jouent peut-être pas en sa faveur. Parce que, je dois dire, il y a eu quelques moments d'éclat, sa victoire en Italie, mais comparé, par exemple, à Nico Hülkenberg, qui lui est arrivé en renfort, sans grande préparation, et a obtenu des résultats que personne ne s'attendait. Je pense, entre autres, au Grand Prix de l'Eifel, où certes, il s'est qualifié dernier, mais il a fini 8e dans la course avec très, très peu de préparation. Et il a fini les deux Grands Prix où il a remplacé Vettel, je pense, devant Lance Stroll aussi, alors qui connaissait déjà la voiture. Alors,
non, mais parce que Lance Stroll, il y a eu un accident, mais la fois qu'il est fini devant, c'est parce que Stroll était au course.
Mais mon point tient quand même. Nico Hülkenberg, dans les circonstances, a été plus performant qu'un Lance Stroll, je dois dire. Donc, c'est peut-être ça aussi. Je pense que Hülkenberg en a un peu plus dans le corps qu'un Daniel Ricciardo qui, on va se dire, est démotivé. Donc, moi, je me dis, d'un côté, si Daniel veut se motiver encore plus, qu'il accepte d'aller un peu en arrière pour se redonner un peu plus de joie, comme ce que Sébastien Vettel fait actuellement avant de quitter la Formule 1. Mais d'un autre côté, si j'étais Haas, j'irais chercher peut-être un Nico Hülkenberg qui, au moins, est un peu... Et moi, je trouve beaucoup plus constant qu'un Daniel Ricciardo dans cette période avec McLaren. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez?
J'ai des doutes parce que oui... Hülkenberg, il était performant, il était bien, mais aussi il faut prendre en compte que lui est dans la même voiture depuis longtemps, dans la même équipe. Qu'est-ce que ça va donner quand il va aller chez ça? C'est pas la même chose. Peut-être que ça va pas donner les mêmes résultats. Moi, c'est ce que je dis depuis le début. Pour moi, Hülkenberg, On le laisse déjà, il y a plein de gens qui ont besoin d'aller en Formule 1. Il y a des pilotes avec super licence. Et si on va prendre un pilote juste pour donner la voiture, rien n'a changé parce que, de mon point de vue, Huckabee, il ne peut pas non plus se payer la voiture. Mm-hmm. Et il n'y a pas de grosses commanditaires qui viennent avec. Que dans ce cas-là, je vais chercher quelqu'un d'autre. Je dis Ricciardo, même s'il est démotivé, je pense qu'il ne dira pas non. Il y a Bando, sinon il y a même Giovinazzi.
Ah, parlons.
Oui, il y a Giovinazzi qui.
Justement, parlons de Jésus. Je dédie cette partie à notre cher Julien Légaré-Turcotte, le fan numéro un d'Antonio Giovinazzi dans le monde. No cap.
Tout le monde, c'était lui.
Antonio Giovinazzi, désolé, a probablement ruiné ses chances de revenir en Formule 1 en ayant un accident lors de la séance d'essai libre du vendredi à Austin. Moi, je pense qu'il vient de ça.
On ne sait jamais, hein? Ah, si Ferrari reste dans les parages.
C'est à voir. Marc-André, vous voulez répliquer?
Oui, bien, en fait, j'aimerais faire un avertissement avant propos à Julien. Que ça se peut qu'il soit très déçu de mes propos, mais ce serait inacceptable que Giovinazzi revienne en Formule 1.
Oh,
non. Giovinazzi ne devrait même pas être dans la Ligue américaine de la Formule 1. Ce gars-là devrait même pas faire de la voiture virtuelle parce que ce serait trop dangereux pour le jeu.
Oh my God!
Oh là là!
Écoute!
Non, mais j'en mets un peu pour Julien, mais pour vrai, je déteste Giovinazzi. Depuis sa toute première course en Chine, J'ai quelque chose contre lui.
Écoute, je viens d'envoyer un message à Julien pour lui dire que on est en train de le roast en ce moment même. Donc, Julien,
pour rentrer encore si elle est temps.
Julien, si jamais. Oh, attends. Julien vient de dire, veux-tu que j'arrive? Oh!
Mais oui.
Attends, j'ai en train de dire oui pronto.
J'espère que tu vas pouvoir reculer la séquence.
Attends, on va l'inviter. Parce que, évidemment, je suis en train de lui dire, évidemment, on parle de Jojo. Aïe, imagine si ça, ce serait épique d'avoir Julien Légaré-Turcotte qui vient en retour. C'est comme si on était dans...
Merci, Yo-Yo.
Oh my God. Imagine. Mais en attendant qu'on ait une réponse de notre Julien, tu disais, Anna-Maria, je pense que tu disais Stoffel Van Dorn aussi?
Oui, parce que Stoffel Van Dorn, il n'y a pas eu beaucoup de chance non plus. Lui, il fallait qu'il redonne sa place parce qu'il y avait Fernando aussi. Et c'est pas n'importe qui était à son côté. mais c'est un pilote qui restait quand même dans les parages, prêt à reprend le volant, même si ça reste un pilote de Mercedes, mais il n'y a pas de Formule 1 cette année chez Mercedes. Que peut-être si on l'applique, c'est un bon choix, pourquoi pas? C'est le champion de Formule 1, mais pour faire quelque chose.
Ouais, mais en même temps, pendant que j'essaie de trouver un moyen d'inviter notre cher Julien, moi, j'ai posé aussi la question sur. J'ai posé la question dans le groupe Facebook La Monoplace, dont on vous invite justement à vous joindre si jamais vous voulez discuter de Formule 1. J'ai posé la question à savoir entre Mick et Nico Hülkenberg, qui aurait le deuxième volant. Il y en a qui ça a l'air partagé. Il y en a qui pensent Mick aura le volant. Jacques Villeneuve. Bon, je me demande, on parle de l'oncle ou du champion du monde?
Qui?
L'oncle, ce serait incroyable. Oh,
ouais, l'oncle, ce serait magique, en effet. Ah. Et il y en a qui parlent de... Attends, je vais juste...
Tu as réussi à inviter Julien?
Je viens d'inviter. En attendant qu'il accepte. Bon, il y a... On parle de Ian Magnussen aussi. Un duo père-fils. Il y en a qui dit... Aucun des deux, Éric Veilleux, que je salue d'ailleurs, aucun des deux, Jim Haas a ouvert son jeu ce week-end et Hülkenberg n'a jamais été vargeux. Et parlez-moi pas de Giovinazzi qui s'est fait torcher par le vieux Kimi.
Encore pauvre Giovinazzi, aujourd'hui je vais prendre la défense de Giovinazzi parce qu'il
va prendre
Il s'est fait crasser, il s'est fait démolir, Giovinazzi, aujourd'hui. C'est sûr que...
Ouais, écoute...
Pas brillant, les fins de semaine, mais au moins...
Ouais, et on a Marc-André Turgeon, que je salue aussi, Daniel Ricciardo, et même François Tremblay qui dit Mario Andretti, parce que Gunther va avoir un champion du monde avec plein d'expérience. Quoique, Mario a bien fait, hein, il a roulé dans une McLaren... Velocity International à Laguna Seca, en plus d'être à Austin pour rouler dans la McLaren 2013. Donc, c'est quand même cool. Donc, quand même. Et puis, on a Nick Provost sur, évidemment, quand j'ai posé la question sur la page Facebook du Bulletin GP qui m'avait dit Nico Hülkenberg aussi. Ça a l'air d'être partagé entre Hülkenberg et Mick Schumacher. Donc, moi, personnellement... Ah, ben tiens, justement, on a notre Julien. Donc, salut Julien, les Gary Turcotte.
Vous m'entendez bien?
On t'entend, Ewan.
Mais tant mieux, parce que j'ai quitté mon lit, ne serait-ce que pour défendre Antonio. Là. Qu'est-ce qui se passe?
Bon, ben Marc-André, la parole est à toi. T'es mieux de répéter mot pour mot ce que t'as dit à propos de Giovinazzi.
Moi, ça?
Oui.
Oui, toi?
You're on the spot.
Giovinazzi n'est même pas assez bon pour la Ligue américaine de la Formule 1 et ne devrait pas faire de ligue simulée parce que ce serait dangereux pour le jeu vidéo.
Ouais, mais je comprends ça, Marc-André, mais il n'en demeure pas moins que la carrière de Giovinazzi en F1 est beaucoup plus longue que le trois quarts des deuxièmes pilotes de chez Red Bull.
Non, mais ils font carrière ailleurs, eux.
ils font carrière avec des problèmes de santé mentale après s'être ramassé par Helmut Marko.
Je pense que c'est un des segments les meilleurs segments de la balado. On va devoir sortir quelques-uns.
Oh my God! Écoute, si l'épisode 123 était assez heavy, celui-là va bien de le taper.
Finalement, c'était pas une mauvaise idée que je propose Giovinazzi hein, pour prendre le volant.
Ben, c'était dans mes plans en plus, mais je pensais pas jusqu'à inviter Julien juste pour avoir un mauvais quart d'heure. mais justement, Julien, pendant que tu es là, parce qu'on parlait justement du volant chez Haas que Giovinazzi a pété au Grand Prix de... OK, j'arrête. si tu avais à choisir entre Mick Schumacher, Nico Hülkenberg ou un autre pilote... pour le deuxième volant chez Haas, ce serait qui, d'après toi?
C'est une excellente question que tu poses. J'aurais tendance à... Puis je vais peut-être en étonner plus qu'un, là, ou plus qu'une. Mais je pense que Mick Schumacher peut encore demeurer chez Haas. Je vois pas vraiment les raisons pour lesquelles ce serait plus pertinent d'aller chercher Nico Hülkenberg. Pas que je considère que c'est un mauvais pilote, c'est juste que... Si je me mets dans la peau de Haas puis que je me dis que j'ai quand même besoin encore de financement, que j'ai besoin d'obtenir des résultats un peu intéressants qui seront moins bons que ceux de Kevin Magnussen, mais tout de même, je continue avec Mick Schumacher. Je vois pas comment Nico Hülkenberg peut faire nécessairement peut faire un travail qui soit à ce point meilleur que Haas peut se délaisser d'un budget en commanditaire d'environ 15 millions de dollars annuellement qui est accordé avec le contrat de Mick Schumacher. Donc, selon moi, il devrait continuer avec lui, là. À moins que soudainement, il y ait un autre pilote qui puisse amener énormément d'argent. Mais à mon sens, là, c'est hautement hypothétique.
Mmh. Et est-ce que tu crois, parce que je disais ça aussi en argument, si Daniel Ricciardo veut vraiment rester en Formule 1, je leur ai suggéré de commencer les contacts avec, d'être plus sérieux avec Gunther Steiner et Gene Haas. Alors, est-ce que... Non! 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 Marc-André vient de nous partager un écran avec l'accident d'Antonio Giovinazzi à Austin. Wow! Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi savage comme ça en fin d'épisode. Wow!
C'est terminé. Antonio Giovinazzi, c'était la suspension de la face. C'est parfaitement normal.
Ouais.
C'est l'occasion parfaite pour le faire.
Ouais, Mick est bon pour ça aussi.
Même tester la clutch aussi.
Ben, notamment, je veux dire, c'est à quoi ça sert les essais libres 1? C'est de tester la voiture. Mais c'est pas juste de les performances de la voiture, c'est de tester également ses composantes de sécurité. Puis là-dessus, Antonio Giovinazzi l'a exécuté parfaitement.
Il a fait les crash tests, Antonio.
Ouais. Ben, Nikita Mazepin aussi l'a fait aussi. You know.
C'est parfait. Puis, Antonio s'en est sorti indemne. Donc, ouais. Chapeau à As, chapeau véhicule. Puis, chapeau à Antonio également d'avoir eu le courage de démolir volontairement une voiture.
Wow. Hey boy, écoute, je m'attendais vraiment pas à ça. Mais pour revenir à Daniel Ricciardo, Julien, est-ce que tu crois que Daniel devrait être plus sérieux avec Haas pour rester en Formule 1 ou bien tu crois que ce serait mieux pour lui qu'il se tasse un peu pour une année?
Ben, je t'avoue que je suis vraiment surpris que Daniel Ricciardo soit pas plus intéressé par ça, parce que bon, le véhicule a beau pas être celui auquel il a été habitué, là. C'est quelqu'un qui aime tellement le marché américain que même s'il terminait en moyenne 15e, 16e, le fait de courir dans une écurie américaine lui permettrait de, un, garder sa place en F1, ce qui est vraiment pas garanti advenant qui envisage un retour en 2024, voire en 2025, surtout à son âge.
Mm-hmm.
Puis, ce serait possible pour lui de continuer de développer son branding comme il le fait. Mais honnêtement, j'ai juste l'impression que Daniel Ricciardo, c'est comme si, présentement, la F1, c'était pas nécessairement sa priorité, parce qu'autrement, il aurait définitivement voulu garder là, un siège assurément à F1, même si ça l'implique qu'ils doivent mettre un peu d'eau dans son vin, puis passer d'une écurie qui était Red Bull à Renault, à McLaren, à une écurie de fond de grille qui est Haas.
Ouais.
Moi, je me questionne aussi à savoir s'il n'y a pas une certaine peur des freins de Haas. On connaît leurs difficultés. Depuis des années, les freins chez Haas, c'est un problème. Et il aime tellement ça les utiliser. Peut-être qu'il se dit, écoute, j'ai pas été capable chez McLaren. Peut-être qu'il y a justement cette peur que les freins ne soient pas capables d'optimiser son talent puis optimiser la façon dont il conduit.
C'est possible.
Ben, est-ce que de toute façon, il était déjà un peu trop tard pour parler d'optimisation de la conduite de Daniel Ricciardo?
Oui. Oui. Tu as raison.
Ouais. Ah, ouais, rendu là.
Les seuls qui ont pu lui offrir une conduite à sa guise, c'est Red Bull.
Ouais.
Enfin, Renault, c'est quand même bien, là, je veux dire.
Oui, c'est vrai.
Il a complètement battu Esteban Ocon puis Nico Hülkenberg. Ouais. Ben, Nico Hülkenberg en 2019, Esteban Ocon en 2020, je veux dire. Daniel Ricciardo a pas mal paru, puis je trouve que c'est une période de sa carrière qui est sous-estimé à mon sens. Là. Mais j'en conviens que pour ce qui est de McLaren, c'est très, très anormal là, par rapport au Daniel Ricciardo qu'on a connu.
Ouais, j'ai hâte de voir, parce que ce serait quand même bien. Ben, je pense pour la Formule 1, ce serait bien de voir Ricciardo encore en Formule 1, même si c'est avec une équipe qui est en fond de peloton. Mais ça lui donnera au moins la chance, comme ce qu'on voit actuellement avec Vettel, de s'amuser un peu. Donc, Moi, je pense que ce serait ça. Donc, sur ce dernier moment un peu fou, on va conclure là-dessus. On vous pose la question encore une fois. Hülkenberg ou Schumacher ou bien quelqu'un d'autre pour le volant de Haas, laissez-le nous savoir. excusez-moi. Évidemment, vous pouvez nous rejoindre sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et autres. On est disponible pratiquement chaque semaine. Et aussi, on a l'émission d'après-course du bulletin GP. Dans ce cas-ci, ce sera disponible lundi, vu que le Grand Prix du Mexique, de Mexico City, sera un peu plus tard durant la journée. Donc, ce sera disponible lundi. Évidemment, nous avons bulletingp.com avec un article sur le FIA Motorsport Game qui débute cette fin de semaine. Et on vous invite d'ailleurs à regarder ça, c'est très intéressant. Il y a un article qui va apparaître dans les prochains jours. Et évidemment, il y a le groupe Facebook La Monoplace, cofondé par Julien Légaré-Turcotte. Et évidemment, monsieur s'est fait ramasser à cause de son accident, de l'accident de son préféré.
Donc, c'est pas un accident lorsque c'est volontaire.
Fair enough. Donc, on vous invite quand même. Si jamais vous voulez clowner Julien, n'hésitez pas. Et aussi à partager d'ailleurs vos plus beaux moments de la carrière de Jacques Villeneuve aussi en Formule 1. Et pas de trucs hors piste là. Donc, fraude, évasion fiscale. Sa musique, on limite, mais tout ça, vous pouvez aller dans la monoplace. Et évidemment, il y a toujours le championnat de sim racing canadien, parrainé par le bulletin GP, tous les jeudis à 20h. Et d'ailleurs, la prochaine épreuve, c'est Belgique, une course complète, dont je serai d'ailleurs à la description. Alors, Julien, merci d'être venu pour quelques minutes.
Merci à toi, Abdou. Merci d'avoir permis de me défendre ainsi que l'un des pilotes. Ça a été un 10 minutes exceptionnel. Puis, j'espère revenir, peu importe l'heure, pour défendre ce pilote.
Ah, ben écoute, comme je t'ai dit, la porte est toujours ouverte. Donc, si jamais tu veux te défendre, feel free. Mais en tout cas, chapeau pour cette entrée en scène. Marc-André, sens-toi mal. Sans toi, mais merci beaucoup d'avoir été là.
C'est un peu ça qu'on voulait amener en l'amenant d'ailleurs.
Exact.
Donc, merci à vous.
Anna Maria, merci d'avoir été là.
Ah, merci à vous. Donc, et pour ce moment, Marc-André, il a fait bien les jouets.
Ah, ben merci beaucoup d'avoir. Ben merci beaucoup, Marc-André, pour ce vote. Mais, et merci de nous écouter de manière régulière, même si on fait des. On fait quelques clowneries. On se retrouve lundi pour l'émission d'après-course du bulletin GP dans le cadre du Grand Prix de Mexico City. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP. On se retrouve une prochaine fois. Portez-vous bien!